Studio Tamani, voici les informations en français.
8h à Bamako, la même heure à Sukura dans le cercle de Mopti. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Remaniement partiel du gouvernement, plusieurs ministres débarqués, de nouvelles entrées, des permutations, les détails à suivre dans ce journal. Les préparatifs de la Biennale artistique et culturelle se poursuivent dans les régions. La commission locale d'organisation a reçu ce week-end une enveloppe du parrain de l'événement. Fin du Hajj 2023, les premiers pèlerins maliens sont attendus ce lundi 3 juillet. Selon des agences de voyage, le pèlerinage des Maliens s'est passé dans de bonnes conditions. Voilà pour les titres, tout sur le développement avec Sekou Gadjigo. Mamadi Keïta sur la mise en onde. Le président de la transition a procédé ce samedi à un remaniement partiel du gouvernement. Plusieurs portefeuilles sont concernés par ce changement. Les départements clés tels que les ministères de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice ou de l'Économie et des Finances restent inchangés. Imirana Kilumaïga.
Dans ce nouveau gouvernement, il y a eu 4 permutations. Il s'agit de celle de Moussa Agataher, auparavant ministre de la Jeunesse, de Sport chargé de l'Instruction civique, devient ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Alhamdou Ag Iliane, qui occupait précédemment ce portefeuille, est désormais chargé de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Youbaba, qui était au poste de ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de l'élevage et de la pêche, devient ministre de l'élevage et de la pêche. Et enfin, Amadou Keïta, qui était à la tête de l'enseignement supérieur, se retrouve aux mines. Tous les ministres issus du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5-RFP, ont été démarqués du gouvernement, à l'exception d'Ibrahim Ikassa Maïga et du PM Choguel Kokala Maïga. Ce réaménagement a connu l'arrivée de 12 nouveaux ministres. Il s'agit entre autres de la nomination du colonel Assaba Diallo à la tête du ministère de la Santé et du Développement Social. Le ministère de Mines, de l'Énergie et de l'Eau, qui était occupé par le ministre des Missionnaires Lamine Seydou Traoré, a été scindé en 2 portefeuilles ministériels. Madame Bintou Camara occupe le ministère de l'Énergie et de l'Eau, alors que Amadou Keïta, anciennement ministre de l'Enseignement supérieur, prend la tête du ministère des Mines.
Le Rassemblement pour le Mali, RPM, a pris connaissance de ce nouveau gouvernement, mais l'ancien parti au pouvoir jugera cette équipe après l'accomplissement des tâches, affirme son porte-parole Sekou Niamey Batili. Pour lui, ce nouvel attelage doit avoir pour mission principale l'organisation de la présidentielle de 2024. Écoutons Sekou Niamey Batili, porte-parole du RPM, au micro de Imirana Kilumaïga.
Il y a des entrants que nous connaissons qui sont des technocrates, mais nous préférons attendre les voir à la tasse, à l'œuvre pour les évaluer. Car il s'agit pour moi de la mise en œuvre du chronogramme électoral. Et le reste de la transition est bien connu parce que nous avons avec les autorités acté un chronogramme de 24 mois qui prendra fin en mars 2024. Pour moi, le gouvernement doit s'atteler à tout mettre en œuvre pour la réalisation parfaite et dans les délais de ces chronogrammes. Il faut noter aussi que nous avons hérité d'un gouvernement qui a moins de tous politiques, avec la sortie de plusieurs ministres qui appartenaient à des regroupements ou à des partis politiques qui ont tendance quand même à présenter des candidats aux futures élections.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité la résolution mettant fin au mandat de la MINUSMA vendredi dernier. Pour certains observateurs, cette décision n'est pas une surprise au regard des désaccords entre le Mali et l'ONU sur la réadaptation de cette mission. Ils l'ont dit dans l'émission Grand Dialogue du vendredi dernier. Ali Cissé revient sur quelques temps forts de ce débat.
Pour Cheikh Oumar Doumbia, analyste politique, cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies se justifie par un ras-le-bol des parties prenantes, notamment maliennes et onusiennes.
C'est un ras-le-bol des autorités actuelles maliennes ainsi qu'une partie de la population malienne qui affirme que la MINUSMA n'est pas en train de servir les objectifs que eux, ils souhaiteraient qu'elle serve. De l'autre côté, c'est un ras-le-bol des États parties prenantes de la mission qui sont en train de dire ah, si nous mettons suffisamment en danger nos hommes et si nous mettons suffisamment de moyens à leur disposition pour contribuer à cette déstabiliser un pays, n'est pas d'avis avec nous ou ne reconnaît pas nos efforts, il serait mieux de nous retirer.
Mais pour Bakabini Keïta, un autre analyste politique, les signes précurseurs de ce retrait étaient déjà prévisibles du fait que les options proposées par l'ONU ne convenaient pas au Mali.
Entre autres, les trois propositions du secrétaire général, il y avait effectivement la transformation de l'aménagement d'une mission sécuritaire en une mission intégralement politique. Et je crois que c'est ce qui constituait pour les autorités maliennes un piège dans lequel elles ne voudraient vraiment pas tomber.
À noter que plus de 160 casques bleus ont perdu la vie dans des opérations de maintien de la paix au Mali.
8h05 à Bamako, je vous le disais dans les titres, les préparatifs de la Biennale artistique et culturelle 2023 prévue du 6 au 16 juillet se poursuivent normalement dans les régions. Le parrain national de l'événement, Bokar Yatasai, a remis ce week-end une enveloppe de 50 millions de francs CFA à la commission locale d'organisation. Les détails avec Issa Omar Touboula.
En plus de ce geste, le parrain national Bokar Yatasai a appelé ses frères et sœurs de la région de Mopti à se mobiliser et à s'unir pour relever ce défi. Pendant ce temps, les préparatifs continuent dans les régions. À Ségou, par exemple, les responsables de l'organisation assurent que la région est déjà prête pour le rendez-vous. Cependant, ils soulignent quelques difficultés financières qui devraient être résolues très rapidement, rassurent-ils. Dans la région de Koutiala, l'inclusion des différents cercles est totale et parfaite. Ce discours est de Amadou Bey Traoré, directeur régional de la culture, qui affirme que sa localité est à 85% de préparation. Et malgré l'existence des difficultés financières également, le directeur promet des surprises au public. Il faut rappeler que la Biennale artistique et culturelle se tient du 6 au 16 juillet dans la région de Mopti et toutes les régions seront représentées avec 19 délégations au total.
Issa Omar Touboula, autre titre de ce journal, fin du Hajj 2023. Le premier convoi des 13 000 pèlerins maliens devrait rentrer ce lundi 3 juillet 2023. Selon certains responsables des agences de voyage, le pèlerinage des Maliens s'est passé dans de bonnes conditions. Toutefois, des cas de décès ont été signalés. Écoutons Amadou Maïga, directeur général de l'agence de voyage Dunia Travel Service. Il est au micro de Ali Mayatara.
Le contingent malien qui est au nombre de 13 323. Les 13 323 ont tout pu à se rejoindre la terre sainte. Ils ont fait le pèlerinage. Tout s'est bien passé. Dans l'ensemble, même la phase critique qui est de séjour à Minaya Rafa, ça s'est bien passé. Bon, il y a toujours des cas de maladie et de décès. Ça, ça fait partie de la vie. On parlait de cas comme ça. Mais pour la mettre encore, on n'a pas fait le point. On n'a pas encore fini de faire le point. Mais en tout cas, de façon générale, on peut dire que tout s'est bien passé pour les pèlerins maliens cette année-là.
Le retrait de la MINUSMA, le remaniement partiel du gouvernement et la fin du Hajj 2023 sont les principaux sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Le résumé de cette actualité avec Lala Aïcha Walet Info.
On commence cette rubrique par le départ de la MINUSMA. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a 6 mois pour quitter le pays. Ce retrait a été déploré par certains pays. D'autres également ont invité les autorités maliennes à coopérer pour le bon déroulement de ce retrait. Le remaniement ministériel est aussi l'une des actualités phares de la semaine. Le nouveau gouvernement de transition est une équipe de 28 ministres, dont 12 nouveaux, dirigés par le Premier ministre Dr. Choguel Koukala Maïga. On termine cette rétroactive par la fin du Hajj 2023. La dernière obligation, communément appelée Tawaf, ou l'accomplissement de 7 tours de l'Al-Kaaba, a été accompli ce vendredi par tous les pèlerins du Mali.
Place à présent à la rubrique « Vérifions une fausse lettre circulaire » a été publiée la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Elle prétend que le ministère de la Jeunesse et des Sports invite les autorités maliennes à lever le mot d'ordre concernant l'interdiction de la vente et la consommation de la chicha. C'est le sujet de la rubrique « Vérifions » de cette semaine avec Fatoumata Kodjo.
Non, le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a pas invité les autorités maliennes à lever l'interdiction et la consommation de la chicha. Contrairement à la note circulaire publiée mardi 27 juin sur les réseaux sociaux, le ministère en question a fait un communiqué le 30 juin dernier pour démentir l'information. L'auteur initial de cette fausse information reste inconnu. Le chargé de communication du ministère de la Jeunesse et des Sports affirme qu'une enquête est en cours au ministère de la Sécurité afin de poursuivre les auteurs. Cela veut dire que l'arrêté ministériel du 15 février dernier portant l'interdiction de l'importation, de la distribution et de l'usage de la chicha reste en vigueur sur toute l'étendue du territoire malien. Et c'est l'Office central de lutte contre les stupéfiants qui doit veiller au respect de la dite mesure.
Un mot de sport avant de boucler ce journal. Cannes U23 au Maroc, le Mali s'est qualifié pour le dernier carré après sa victoire sur le Niger 2-0 ce samedi. Les Aigles Espoirs affronteront ce mardi 4 juillet le Maroc, pays hôte, à 20h en deuxième demi-finale. La première demi-finale opposera l'Égypte, tenante du titre, à la Guinée à 17h. Et c'est ce qui met fin donc à ce journal qui vous a été présenté par Sekou Gadji Gomis en nom de Mamadi Keïta. Vous pouvez le réécouter ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani que vous pouvez télécharger sur Play Store. Merci à toutes et à tous.
Au 16 juillet 2023, vivez en direct de Mopti, la biennale artistique et culturelle du Mali sur Studio Tamani.
Thème de cette biennale, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin.
Studio Tamani vous fait vivre les temps forts de cet événement culturel national. Des reportages, des interviews, des débats, des retransmissions en direct.
Studio Tamani, toute la voix du Mali.
De plus en plus, les berges du fleuve Niger au Mali servent de dépotoir pour les populations. Cette situation, décriée par les riverains, s'avère dangereuse pour la survie du fleuve ainsi que celle des humains, selon des spécialistes. C'est le sujet du magazine Parlons de l'environnement, réalisé par Fatih Attara.
À Gao, les tronçons qui longent les marchés de la ville et les quais sont obstrués par les ordures de tout genre. Les habitants, notamment les piroguiers et les pêcheurs, dénoncent cette pollution de l'eau et les odeurs nauséabondes occasionnées par cette pratique.
Il y avait tellement de l'eau que même à cette période de crue, il était difficile pour un vrai pêcheur de passer à l'autre côté de la rivière, même si les gaillards grands et forts.
Nous sommes asphyxiés par des ordures nauséabondes qui nous rendent malades.
Nous avons l'habitude de veiller très tard afin de chasser ceux qui viennent déverser les ordures ici. Malgré cela, il y a des gens têtus qui le font en catimini et pendant la nuit.
Une situation semblable dans beaucoup d'endroits qui inquiète beaucoup les communautés. Certains ont même pris des mesures de protection. C'est le cas de ces personnes rencontrées à Gao, Ségou et Mopti. Celles-ci estiment qu'à la longue, l'eau du fleuve Niger ne serait plus comestible.
J'ai peur de boire l'eau du robinet maintenant à cause des ordures qui sont dans le fleuve.
Les gens parlent de la qualité de l'eau par rapport à la boisson. Vous savez, selon moi, elle n'est même pas bonne pour les bains.
L'eau des robinets est toujours troublée. Je suis sûre que cela a un lien avec les ordures que les gens versent dans le fleuve.
Cela fait 3 ans que je ne bois plus l'eau des robinets à cause de cette situation.
Le docteur Mohamed Salia Sissé confirme ses dires. Selon lui, l'insalubrité du fleuve est source d'innombrables maladies mortelles.
Bon, les principales maladies que l'on peut attraper, ça peut être les choléras, il y a la dysenterie aussi, il y a aussi, comment on appelle, la fièvre typhoïde, la diarrhée et même l'hépatite A. Hein.
Les autorités pointent du doigt la responsabilité des populations dans cette situation. Yacouba Mahmoud Meïga, adjoint au maire de la commune urbaine de Gao.
Malheureusement, c'est les citoyens qui dénoncent la santé qui sont à la base de tout ce qui se passe. Ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, l'incivisme.
Et pourtant, certains environnementalistes soulignent en revanche la responsabilité des autorités communales dans la protection de l'environnement. C'est le cas d'Ahmed Sekou Diallo.
Il y a les services d'assainissement aussi qui ne jouent pas le rôle. Quand il n'y a pas les dépotoirs d'ordures, quand il n'y a pas les bacs où on doit déposer les ordures, quand la population n'a pas d'alternative, elle se cherche toujours des alternatives. Il faut continuer à sensibiliser en mettant des dépotoirs et autres.
Les mairies qui sont en charge de la question de l'assainissement expliquent leur inaction par le manque des moyens. Il s'agit notamment des engins de transport et de fonds. Yacouba Mahmoud Meïga, adjoint au maire, maire de la commune urbaine de Gao.
Au niveau de la mairie, il y a des difficultés. Les moyens de transport. Je viens de dire la difficulté qu'on a pour mobiliser les trucs. On n'a pas de benne. Le maire était obligé d'acheter de lui-même une multi-benne. Mais une multi-benne pour tout Gao, ce n'est pas possible. Aucun citoyen ne s'intéresse à l'assainissement de la ville.
En tout cas, si rien n'est fait, le Mali perdrait le fleuve Niger dans les jours à venir. Cela s'explique par son rétrécissement à plusieurs niveaux, prévient l'environnementaliste Ahmed Sekou Diallo.
Le fleuve n'est pas un déportoir d'ordures. À force de jeter les ordures aussi, le fleuve va disparaître et nous allons disparaître aussi, hein, tous ensemble.
Rappelons que le fleuve Niger est le troisième du continent par sa longueur après le Nil et le Congo. Ce cours d'eau permet d'activités essentielles à l'économie du pays, notamment la pêche, l'agriculture, la fourniture de l'électricité, entre autres. Fin de ce magazine, parlons de l'environnement. Il a été présenté par Fatia Tara. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine